France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le combat des prostituées de Lyon à l'église Saint-Lizier. En juin 1975, elles sont 70, puis 150, puis 200 à occuper avec le soutien du clergé local l'église Saint-Lizier en plein cœur de la ville. Pendant 8 jours, elles dénoncent la répression policière qu'elles subissent et s'attellent à démonter les a priori de la société française à leur encontre. « Nous ne sommes pas des femmes de mauvaise vie ou de petite vertu », affirme-t-elle publiquement. « Nous sommes des femmes tout court et nous avons le droit d'exister en tant que telles. » En France, mais aussi à l'étranger, la presse relaie très largement cette mobilisation inédite qui trouve un écho inattendu auprès de l'opinion publique. Mais les autorités, elles, font la sourde oreille. Pourtant, le mouvement SM et rapidement, des centaines de prostituées occupent des églises dans toute la France pour revendiquer leurs droits haut et fort. Retour sur une semaine de lutte sans précédent. 8 jours de solidarité et d'engagement collectif, durant lesquels les femmes prostituées de France, pour la première fois, font entendre leur voix. Notre invité aujourd'hui, Lilian Mathieu, sociologue, directeur de recherche au CNRS, au centre Max Weber et à l'ENS de Lyon, spécialiste de l'étude de la prostitution et des mouvements sociaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Lyon, la bourgeoisie austère et sourcilleuse, Lyon, la sérieuse, n'en revient pas. Que sa police n'ait pas réussi à empêcher le développement de la prostitution qui envahit petit à petit le cœur de la ville entre Rhône et Saône, passe encore. Mais qu'elle l'organise et qu'elle en profite, alors on ne comprend plus. Le Baby Hotel, au cœur de la ville, une société à responsabilité limitée d'apparence anodine. Source de revenus, la prostitution. Propriétaire, un agent immobilier, Antoine Colombani, et 2 policiers. Le dossier de l'affaire du Baby Hotel semble si simple qu'on peut se demander si les policiers n'étaient pas un peu naïfs. Naïfs ou bien très bien protégés. C'est en tout cas ce qu'ils ont dit avec une certaine arrogance au juge d'instruction, M. Anoto. C'est aussi ce qui fait penser ici à Lyon qu'il y aura bientôt d'autres inculpations.
Nous sommes en 1972. Des policiers de la brigade des mœurs sont arrêtés puis condamnés à Lyon pour proxénétisme. Et le scandale ne s'arrête pas à la Mondaine, comme on appelle la brigade de répression du proxénétisme. Non, certaines personnalités politiques de droite, issues de la bourgeoisie locale, sont suspectées d'entretenir elles aussi des liens avec le milieu du proxénétisme lyonnais. Ce qui est évidemment du plus mauvais effet. Quelques 400 prostituées, des femmes à l'époque majoritairement françaises, travaillent alors dans des hôtels de passe depuis que les maisons closes ont été interdites par la loi Martrichard en 1946. Mais pour mettre fin au scandale, ces hôtels sont fermés. Et les prostituées lyonnaises sont désormais contraintes de travailler dans la rue ou chez elles, donc isolées et à la merci des clients les plus violents. À l'été 72, une trentaine d'entre elles décident de tenter une action collective. Et c'est une première pour ces femmes très marginalisées. Le 25 août, elles se regroupent place des Jacobins avec l'idée de défiler jusqu'à l'hôtel de police de Lyon.
Il y avait du rififi aujourd'hui sur les trottoirs de Lyon. En effet, beaucoup attendaient place des Jacobins les dames de petite vertu qui, excédées par les descentes de police dans les hôtels, avaient décidé de manifester dans les rues de la ville. La police était aussi au rendez-vous et ces dames, pourchassées, n'ont pu mener à bonne fin leur marche de protestation. Toutefois, certaines d'entre elles, à qui bien sûr nous avons promis l'anonymat, nous ont confié leurs revendications. Les voici.
Alors, mesdames, qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos problèmes?
Parce que les hôtels sont fermés. Voilà. Et on veut la réouverture pour nos amis. Parce qu'il y a 2 ou 3 hôtels qui sont ouverts et les autres ne peuvent pas travailler. Alors, nous, on voudrait bien toutes travailler. On a le droit de manifester comme tout le monde.
Et on a des enfants à élever. On voudrait bien quand même travailler pour gagner notre vie.
Les femmes de petite vertu, dit ce journaliste, au premier degré apparemment. Les prostituées lyonnaises, dont la presse a relayé la mobilisation avec un regard amusé, sont placés en garde à vue par des policiers qui sont aussi parfois leurs clients. Les passants, eux, observent la scène comme au spectacle. Cette première tentative de mobilisation, ratée, marque les prostituées lyonnaises au fer rouge. Et pourtant, au fil des ans, leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader. Au début de l'année 75, la police lyonnaise se met à appliquer avec zèle deux articles oubliés du code pénal afin de rassurer la population sur la fermeté face à la prostitution. Et surtout, après le scandale généré par l'affaire des policiers proxénètes. Toute attitude, je cite, « de nature à provoquer la débauche, vaut désormais amende et peine de prison aux Lyonnaises quand, rappelons-le, elles ont été contraintes par la fermeture des hôtels de travailler dans la rue. » En France, la prostitution n'est pourtant pas interdite et au regard du droit, les prostituées sont considérées comme des victimes. Amende abusive et arbitrairement distribuée jusqu'à 5 PV par jour. Brimades, agressions ponctuent le quotidien de ces femmes que personne ne protège. L'année précédente, 3 d'entre elles ont été assassinées sans que la police ne cherche sérieusement les coupables. Mais au printemps 75, c'en est trop. 3 ans après l'échec de la manifestation des Jacobins, les prostituées lyonnaises aspirent de nouveau à affirmer leurs droits. Et cette fois, elles vont se faire entendre. Au printemps de cette année-là, on compte une 30aine de prostituées lyonnaises emprisonnées depuis le début de l'année et 3 sont dans l'attente d'un jugement. Attitude de nature à provoquer la débauche. C'est ce que sanctionnent ces peines de prison alors que la prostitution, rappelons-le, est autorisée dans ce pays. Pour mener à bien leur combat contre l'arbitraire d'une répression policière incessante, les prostituées de Lyon vont solliciter l'aide d'une association qu'elles connaissent bien, le NI. Et pas question cette fois, comme en 72, de se livrer aux moqueries des bourgeois de la ville. Excepté pour certaines, quelques expériences lycéennes en mai 68, ces femmes ne sont ni politisées ni militantes. Donc il leur faut des appuis qui, eux, connaissent les tenants et les aboutissants d'une mobilisation réussie. Le NI est une association abolitionniste issue de la jeunesse ouvrière chrétienne qui accompagne les prostituées au quotidien et les aide à se réinsérer. Abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle œuvre à la disparition de la prostitution. Une mission contradictoire avec les revendications des prostituées lyonnaises qui demandent, elles, à pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Mais le NI met de côté l'abolition. Il s'agit maintenant de permettre aux prostituées de s'emparer de leur existence via l'auto-organisation. Et la première étape, c'est la médiatisation de leur cas, rendue possible par les contacts que l'association entretient avec des journalistes, dont Claude Jacquet de Libération. C'est ainsi que le 29 avril 1975, la France découvre une parole rare à la télé, celle d'une prostituée, pseudonyme Hula, ou Hula. Mère de famille lyonnaise, diplômée en droit, la trentaine, le visage dissimulé dans l'ombre, elle intervient dans les dossiers de l'écran, sur Antenne 2. Et elle y raconte comment la faillite de son dancing l'a menée à la prostitution et sa volonté d'être reconnue comme une femme à part entière et fréquentable.
C'est pas la profession qui est menacée, parce que de toute façon, elle a toujours été, puis je pense que selon l'évolution des temps, elle sera encore pas mal de temps dans le courant des mœurs. C'est nous-mêmes, c'est nous en tant que femmes qui sommes menacées. Nous ne revendiquons rien, nous ne sommes pas ni à la régie de Renault, ni chez Berlier. Nous n'en sommes encore pas au stade des syndicats, des revendications. Nous voulons simplement que l'ensemble de l'opinion publique comprenne qu'on voudrait un tout petit peu notre dignité de bonne femme, entre guillemets toujours. Parce que nous sommes des femmes, comme toutes les femmes qui se promènent dans la rue. Et socialement parlant, actuellement, plus personne ne s'attache à notre problème.
Après les médias, c'est vers le préfet de police que les prostituées lyonnaises se tournent sur les conseils de leurs amis du NI. Mais celui-ci, le préfet, contacté par lettre, refuse de les rencontrer. D'accord pour discuter avec le NI, mais pas avec les intéressés elles-mêmes. Alors, pour qu'on les écoute, il va falloir qu'elles crient plus fort. Et c'est l'occupation d'une église qui est décidée conjointement avec l'association du NI, d'inspiration chrétienne justement. Un choix à la fois symbolique et stratégique, puisque les églises sont traditionnellement perçues comme des lieux d'asile que la police ne peut évacuer sans l'accord des prêtres. Reste à trouver la paroisse qui acceptera d'accueillir les quelques 70 femmes qui constituent le cœur de la mobilisation à venir. Eh bien, ce sera Saint-Nizier, l'une des plus vieilles églises de Lyon, dans le quartier des Cordeliers. Son curé, le père Béal, connaît quelques prostituées ferventes qui assistent à ses messes. Quant à l'archevêque de Lyon, Monseigneur Renard, il ne s'oppose pas à l'occupation et se déclare publiquement, et je le cite, « conscient des situations douloureuses et regrettables dans lesquelles se trouvent ces personnes.
80 respectueuses lyonnaises protestant contre la répression dont elles estiment être l'objet de la part de tous les services de police occupent depuis ce matin l'église Saint-Nizier au cœur même de la cité. Le mouvement de révolte lancé sous la conduite d'Ula, qui participa à l'émission des dossiers de l'écran, ne se limite pas à cette manifestation. Un mot d'ordre de grève a été lancé et des tracts sont distribués aux passants.
Le 2 juin 1975, à 9h du matin, elles sont 78 à s'installer dans l'église Saint-Nizier avec bagages, couvertures et thermos de café. Sur les tracts que l'association d'Uni distribue sur le parvis de l'église, la vie et la population commencent par ces mots. Ce sont des maires qui vous parlent. Car si elles réclament la fin des peines de prison à leur encontre, c'est parce que l'immense majorité d'entre elles ont des enfants, dont la garde risque de leur être retirée à chaque fois qu'elles sont incarcérées. Les femmes qui acceptent de répondre à la télévision locale, toujours cachées derrière des foulards et des lunettes, expliquent aussi vouloir changer l'image des prostituées auprès de l'opinion. Elles ne sont pas des corps qui se vendent, elles sont des femmes et des mères.
On lutte actuellement pour retrouver le respect d'être femme. On ne demande pas la liberté des femmes, non, parce qu'on ne fait pas partie du groupe féministe. On demande simplement le droit d'être acceptée comme des femmes seulement. Rien que ça, enfin, c'est très peu ce qu'on demande. Être des femmes, avoir le droit à la parole et donc qu'on ne crache pas dessus toujours. Parce que si la police agissait d'une autre façon avec nous, la population agirait aussi d'une façon tout à fait différente.
Ce n'est pas le métier que vous faites qui vous fait penser que vous n'êtes ou vous n'êtes pas une dame bien. C'est le ghetto dans lequel vous maintient la société.
C'est la société qui fait qu'on ne nous respecte pas. C'est la société actuelle qui accepte la pornographie, qui accepte les sex shops, mais qui n'accepte pas les prostituées.
Cette femme qu'on entend sur Antenne 2 se fait appeler Barbara. Avec Ula, qui s'est la première exprimée dans les dossiers de l'écran, elle est la porte-parole du mouvement de Saint-Nizier. Ancienne institutrice, mère de deux enfants, c'est l'une des seules à parler à visage découvert. Le matin même, Ula et Barbara ont déposé avec leurs consorts des recours en grâce auprès du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Sans réponse pour le moment. Elles ont également sollicité publiquement François Giroud, la secrétaire à la condition féminine du gouvernement de Jacques Chirac. L'année 1975 a été déclarée par l'ONU Année internationale de la femme. Et les prostituées lyonnaises entendent bien obtenir une entrevue avec celle qui est officiellement chargée en France, et je cite encore, d'améliorer la condition féminine et d'éliminer les discriminations dont les femmes peuvent faire l'objet. Mais François Giroud refuse de les rencontrer et les renvoie vers le ministre de l'Intérieur. Pour Barbara, la porte-parole du mouvement, le message est limpide. On ne nous considère pas comme des femmes, mais comme des délinquantes.
Que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous aider parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant ce n'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne veut pas s'occuper de nous parce que ce n'est pas non plus son problème. Alors c'est le problème de personne. Alors on voudrait que quelqu'un prenne la parole et nous mette au courant en nous disant qui ça regarde.
Au soir du lundi 2 juin 75, elles sont 80 à se coucher en rang d'oignon sur des tapis. Il y a aussi le père Louis Blanc, l'aumônier du nid, qui les accompagne. Mais passé l'euphorie des premières heures, passe à l'angoisse. Combien de temps dormiront-elles là, à même le sol de l'église et loin de leurs enfants? Après une mauvaise nuit, les nouvelles s'enchaînent au petit matin. Les bonnes d'abord. Les femmes du quartier leur ont apporté un petit déjeuner. Puis les mauvaises. Seul le journal Libération leur consacre sa première page et Le Monde a même rangé l'affaire dans sa rubrique « Faits divers ». Et puis toujours aucune réponse aux demandes de recours en grâce pour les prostituées menacées d'incarcération. Dans l'église Saint-Nizier, cette deuxième journée d'occupation s'écoule dans le calme. On organise des tours pour la vaisselle, on écoute la radio, on discute, on fume. Sur le parvis, les curieuses et les curieuses s'amassent. Plutôt encourageant d'ailleurs pour la plupart, remarque avec surprise celle qui garde la porte de l'église, même si certaines réprouvent leur choix d'occuper un bâtiment religieux.
qu'un curé prête l'église, un curé de paroisse comme ici, prête l'église à des femmes qui font le métier de la rue. Je ne suis pas contre ces femmes, loin de là. Elles font leur métier.
Ça, j'y trouve anormal, déplacé.
Qu'est-ce que vous en pensez,
monsieur ? Je ne trouve pas du tout déplacé, je trouve triste, oui, mais pas déplacé du tout.
Qu'est-ce qui est triste ?
Mais qu'elles soient obligées de venir là pour parler en prison.
Ben les filles, ben, elles ont un problème et c'est pas en les mettant en prison qu'on les résoudrait, quoi.
Je pense qu'il faut des femmes comme ça, moi. Mais faut comprendre les hommes. Les hommes qui n'ont pas de femmes, faut comprendre.
C'est tous des hommes mariés qui viennent. Je suis témoin.
Mercredi 4 juin, troisième jour de mobilisation et toujours aucune réaction des autorités sollicitées. Des représentants de l'association du Nid ont bien été reçus par la déléguée régionale à la condition féminine, mais les prostituées mobilisées n'ont pas été conviées. Le maire de Lyon, Louis Pradel, n'entend pas le moins du monde leur rendre visite, mais il s'amuse à commenter publiquement la situation. Bien sûr, il a déjà eu recours à une prostituée, raconte-t-il goguenard à la télé. Après avoir expliqué que, si l'on veut supprimer la prostitution en France, il faut couper le zizi à tous les Français. L'expression est reprise par tous les journaux. Aujourd'hui, on appellerait ça un buzz. À la différence du gouvernement, les journalistes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'occupation de Saint-Nizier. Les porte-paroles se sont répartis la tâche. À Barbara, les médias étrangers, anglais et italiens, notamment. À Ula, les grands journaux nationaux. Les revendications des Lyonnaises, ainsi relayées partout en France et jusqu'en Australie, trouvent un écho tout particulier auprès de celles qui, ailleurs, souffrent également d'être sans cesse stigmatisées, sanctionnées, violentées. Ce sont d'abord 50 prostituées marseillaises qui rejoignent Saint-Nizier, bientôt suivies d'autres femmes venues de Montpellier, Toulouse, Nîmes ou Paris. Elles étaient 70 au premier jour, elles sont désormais 200 à occuper l'église.
Décembre, ce matin, sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose. Elle s'était trompée de temps et n'avait trouvé que le vent, meurtrie à peine éclose. Oh rose, rose, bien trop frêle, déjà meurtrie, ma presque belle, qui vous dressait malgré le froid. Et contre toute vraisemblance, croyez que le printemps commence. Rose, vous ressemblez à moi, rose, vous ressemblez à moi. En plein décembre, j'ai trouvé la rose qui me ressemblait aux pétales de givre. Non, pas la rose d'un été, non, pas la rose d'un bouquet et de la joie de vivre. Mais rose, rose, pas très belle, rose à l'espérance fidèle, au risque d'y perdre le cœur. Vous qui refusez la tempête et redressant toujours la tête, comme moi, niez le malheur, comme moi, niez. Je vous ai cueilli comme je le pouvais, et placé dans un verre une larme bien oubliée du temps où je savais pleurer, attacher ma paupière. Oh rose, rose de courage, un peu fripée, un peu sauvage, les jardinières riront de nous. Tant pis si le froid me démembre, je fleurirai même en décembre, et que me comprennent les fous, et que me comprennent les fous. En plein décembre, ce matin, et sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose, une rose.
Aujourd'hui, le mouvement des prostituées à Lyon.
France Inter, affaires sensibles.
Jeudi 5 juin 1975, au quatrième jour de l'occupation, les prostituées sont très exactement 204 dans l'église Saint-Dizier de Lyon, venues réclamer la fin des amendes, des peines de prison et des violences arbitraires dont elles font les frais à Lyon, mais aussi un peu partout en France. Car au fil des jours, il apparaît évident qu'il s'agit d'une réalité nationale, et pas seulement lyonnaise. Au quatrième jour, alors que des dizaines de femmes ont rejoint l'église depuis tout le pays, l'ambiance est à la fête et au partage. Une association de jeunes cinéphiles de la Croix-Rousse projette des films dans l'église et dans la journée, ce sont des musiciens qui viennent distraire avec leurs instruments les femmes de Saint-Dizier. Des liens secrets, on danse et surtout on chante ensemble. Et pour se donner de la force, les textes que les prostituées diffusent sont écrits collectivement. En ce quatrième jour, d'autres militantes vont rejoindre la mobilisation et notamment les féministes du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Pour elles, pourtant, la prostitution n'est pas une thématique dont elles débattent vraiment. Elles connaissent même très mal ce milieu. Mais alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter le texte sur l'IVG, le moment se prête à une nouvelle mobilisation. La réalisatrice féministe Carole Roussopoulos, qui a notamment filmé un avortement par aspiration en 73 dans le film « Y'a qu'à pas baiser », va mettre en place à Saint-Dizier un dispositif étonnant. Elle filme l'intérieur de l'église avant de faire participer les femmes au montage et de diffuser les bandes sur des postes à l'extérieur pour que les passants et les passantes qui voudraient assister aux discussions qui se tiennent à l'abri des regards puissent le faire.
Il y a le même échelon d'exploitation pareil, parce que l'ouvrier qui est en bas chez Berlier, il est exploité par 150 personnes avant d'arriver en haut. Alors de toute manière, l'exploitation n'est pas exclusive à la prostitution. Ouais. L'exploitation, c'est une exploitation de la société, c'est pas une exploitation de la prostitution. Moi, de toute manière, je dénonce complètement ce matraquage de la fille sous prétexte que c'est pour atteindre la proxénète, c'est pas vrai. L'État se donne bonne conscience pour matraquer les prostituées, de dire que c'est pour avoir les proxénètes.
L'analyse des militants du MLF qui viennent soutenir les prostituées de Saint-Dizier est la suivante. Qui avec son patron? Qui avec son mari? Pour garder son emploi et sa sécurité matérielle, il n'y a pas que sur le trottoir que les femmes sont amenées à se prostituer. Pour elles, la prostitution n'est qu'une des formes de l'oppression des femmes par les hommes, et en particulier par les hommes au pouvoir, c'est-à-dire l'État. Les enjeux très locaux qui ont amené les prostituées lyonnaises à occuper Saint-Dizier se parent d'universel au contact des militantes féministes. Au cinquième jour de mobilisation, des femmes prostituées de Saint-Étienne décident d'occuper une église dans leur propre ville. Et elles sont rapidement suivies par d'autres, à Montpellier, Nice, Cannes, Toulouse, Grenoble et Marseille. Au total, la mobilisation s'étend à 25 villes françaises. Reportage à Montpellier.
Nous voudrions pouvoir travailler, parce qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus travailler. Dès que nous mettons un pied dehors, nous sommes emballés et nous avons des PV. Donc, nous pouvons en avoir un, deux, trois par jour. Bon, ça fait des sommes quand même considérables. En plus, on nous a signalé, nous avons toutes reçu des feuilles d'impôts, et nous sommes imposables sur 4 années en arrière. Pour qui 3, 4 millions, pour qui 7 millions, et cet argent, personne ne l'a et personne ne le payera. Parce qu'il est inadmissible qu'on nous fasse payer des impôts et qu'on nous fasse payer des amendes. Ou nous payons des impôts, ou nous payons des amendes. Donc, ou on reconnaît la prostitution, ou on ne la reconnaît pas. Si on la reconnaît, on paye des impôts. Si on ne la reconnaît pas, nous payons des PV.
Samedi 7 juin 1975, sixième jour de la lutte des prostituées de Lyon contre la répression policière et fiscale qui les harcèle. Et c'est au tour des Parisiennes de rejoindre le mouvement avec l'occupation par plusieurs dizaines d'entre elles de la chapelle Saint-Bernard, près de la gare Montparnasse. À Paris comme ailleurs, les revendications rejoignent celles des pionnières lyonnaises. Les prostituées de la capitale réclament également la suppression des arrêtés qui prévoient des amendes et des peines de prison pour attitude de nature à provoquer la débauche. Elle demande à être reconnue comme des femmes et comme des mères et dénonce les agressions qu'elles subissent impunément dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Elle s'oppose également à la réouverture des maisons closes que les prostituées rejettent unanimement partout en France pour protéger leur indépendance. Mais petit à petit, de nouvelles revendications éclosent, ça et là. En particulier la reconnaissance par l'État de la prostitution comme une profession, ce qui permettrait à celles qui l'exercent de bénéficier d'une fiscalité plus juste, de la sécurité sociale et de la retraite. C'est en tout cas ce que demande cette femme, anonyme.
Le tapane maintenant, c'est plus valable. On est censé s'emmerder d'abord, on n'a pas de sécurité ni rien. Faut faire toute attention, pas se faire attaquer ou quoi que ce soit. C'est plus possible de tapiner comme ça, en parlant vulgairement. Hein. D'abord, on veut que la police nous embête beaucoup moins, ou alors elle nous fasse payer des impôts par an, et qu'on ait la sécurité sociale.
Et si vous n'obtenez pas satisfaction, qu'est-ce que vous allez faire ?
Eh ben, on contestera jusqu'à ce qu'on nous entende.
Hula et Barbara, les porte-paroles lyonnaises de la contestation, ne se reconnaissent pas dans cette volonté d'organiser la prostitution et d'en faire officiellement un métier. En revanche, et c'est une certitude, outre la question des amendes, il faut changer la loi sur le proxénétisme. Car au regard de la législation française de 75, quiconque vit avec une prostituée, compagnon, camarade, parent, est considéré comme proxénète par cohabitation, et donc hors la loi. C'est ce qu'explique Barbara Hula devant la caméra de Carole Roussopoulos dans le film Les prostituées de Lyon parlent, tourné dans l'église de Saint-Nizier.
Bah, on est tous d'accord, non, les gens ne comprennent pas dehors. Non. Et les gens devraient comprendre que si un jour on nous trouve bras dessus avec un mec, bon, c'est pas parce que c'est un proxénète, c'est parce que c'est un gars qui nous plaît. Un point, c'est tout. Maintenant, il est évident que si ce gars il gagne 200 000 balles par mois, que moi j'en gagne 300 000, si on met notre cagnotte en commun, il est évident qu'automatiquement il va profiter plus ou moins de l'argent que j'aurais gagné. Ou, de toute façon, moi je connais des personnes mariées, légitimement, des gens honnêtes, dont le bonhomme n'a jamais foutu de sa vie parce qu'il n'a pas envie de travailler. La bonne femme va travailler. Bon, ben c'est d'aller dans le ménage. On ne pose jamais de questions pour savoir comment ça se fait que le brave homme ne travaille pas. Du moment qu'elle fait un travail honorable. Alors je suis désolée, la prostitution n'est peut-être pas honorable, mais c'est quand même un travail et un métier.
Le vrai proxénète, affirme Hula aux médias qui l'interrogent, ce n'est pas son mari, qui joue pourtant à l'occasion le rôle de souteneur. Non. Le vrai proxénète, c'est l'État. Qui gagnerait, selon les chiffres qui circulent à l'époque, l'équivalent de 230 millions d'euros chaque année sur le dos des prostituées sans qu'elles n'aient aucun droit en retour. Pour les militantes féministes qui ont attrapé le train de la mobilisation en marche, la question du proxénétisme reste compliquée à appréhender. Insoluble même. Comment comprendre sa femme qui se déclare libre tout en vendant leur corps, parfois pour le compte de ceux qu'elles appellent leurs amis ? Comment les défendre contre la police, contre le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, sans favoriser en creux le proxénétisme qui existe de fait? Au septième jour des mobilisations, la rumeur enfle dans les médias, portée par le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski lui-même, mais démentie par les principales intéressées et par l'association d'Uni qui les accompagne. L'occupation de l'église Saint-Nizier aurait été orchestrée.
Cette affaire de prostitution qui est de tous les temps pose deux problèmes graves. Le premier qui est celui du racolage public et le second celui du proxénétisme. Le proxénétisme représente des intérêts considérables. Par exemple, pour la seule région parisienne, 6,5 milliards. C'est-à-dire, cela représente le chiffre d'affaires du tiercé en une année en France. Et ce sont ces organisations de proxénètes qui ont poussé à ces manifestations dans les églises.
Samedi 7 juin 1975, Hula, Barbara, mais aussi Minouche, Carole, Martine, Mireille, Christine et les autres prostituées mobilisées pour leurs droits attendent avec impatience des réponses officielles. La veille, elles ont contacté Michel Poniatowski, que vous venez d'entendre, et qui les accuse d'être manipulées par leurs souteneurs. Mais le week-end passe, sans messe dans les paroisses occupées et sans réponse de qui que ce soit de la part du gouvernement. Le 9 juin, rapporte Le Monde, il y a bien une rencontre place Beauvau entre Maître Jurami, avocat au barreau de Marseille, mandaté par les manifestantes, et le directeur de la réglementation du ministère. Un coup d'épée dans l'eau. Pour les prostituées de Lyon, et d'ailleurs, qui dorment à l'église dans des sacs de couchage depuis plusieurs jours déjà, le silence des autorités devient lourd, trop lourd. Les troupes sont fatiguées, démoralisées. Mais il est décidé collectivement de rester une nuit encore, un jour de plus. Ce sera le mardi 10 juin, le jour de trop.
Toutes les églises occupées ces derniers jours par des prostituées sont maintenant évacuées. Si M. Poniatowski, disent-elles, nous considère comme du bétail, nous croyons que les hommes et les femmes de ce pays sont capables d'autres sentiments. Bien sûr, elles n'ont pas compris pourquoi les forces de police sont intervenues alors que l'opinion publique semblait avoir quelque sympathie pour leur cause.
Il est très tôt en ce mardi 10 juin 1975 quand la police fait évacuer, sur ordre du ministère de l'Intérieur, toutes les églises occupées en France. Une réponse musclée au lieu du dialogue que les femmes mobilisées ont tenté 8 jours durant d'instaurer avec les autorités. Aucune d'entre elles n'a pu s'entretenir avec l'un des représentants de l'État, que ce soit le président, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Santé, la secrétaire d'État à la condition féminine ou le préfet de police de Lyon. À Saint-Nizier, ce sont 100 officiers de police qui entrent de force dans l'église avec chiens, matraques et bombes lacrymogènes pour déloger celles que Michel Poniatowski considère comme des fauteuses de troubles. Quand elles ne sont pas placées en garde à vue, c'est à l'hôpital que sont envoyées les Lyonnaises. Comula, évacuée après avoir été blessée à la tête. Barbara, l'autre porte-parole du mouvement, annonce la suite des événements sur France 3.
Hula apparaît-il disparu ?
Hula n'a pas apparaît-il disparu, Hula a disparu. C'est-à-dire qu'Hula était à l'hôpital, on n'a absolument aucune nouvelle d'elle. Elle est en robe de chambre, sans argent, sans clé, sans rien. Elle n'est plus du tout à l'hôpital. Alors on voudrait savoir où elle est.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Ben, nous allons nous réunir. Et je pense que toutes les femmes de France, enfin toutes les prostituées de France sont d'accord pour que nous revoyions dans toutes les villes, par quartier, par rue, et que nous groupions afin que nos revendications soient toutes les mêmes. Parce qu'on espère fortement arriver quand même à quelque chose de raisonnable.
Vous allez constituer un syndicat ?
Un syndicat, mais pas politique, parce que nous n'appartenons à aucun groupe politique. Un syndicat de prostituées.
À peine sont-elles sorties de garde à vue que les prostituées lyonnaises se réunissent au cinéma Le Canu à la Croix-Rousse pour déterminer comment faire durer le mouvement, malgré l'évacuation de l'église. Elles décident notamment de l'élection de délégués de quartier et de l'organisation d'états généraux de la prostitution au niveau national. Pendant ces 8 jours de lutte, beaucoup ont appris à s'organiser collectivement, à prendre la parole devant une assemblée, bref, à faire front. Alors pas question pour elles d'abandonner le combat. D'autant que Giscard a nommé un magistrat, Guy Pinault, pour mener une mission d'information sur la prostitution. Un monsieur prostitution, comme l'appelle la presse, qui doit rendre un rapport à la fin de l'année 75. À première vue, et malgré l'évacuation brutale de l'église, c'est donc plutôt une victoire pour les femmes de Saint-Nizier. Le retentissement de leur mouvement, inattendu, leur a permis de se faire entendre au-delà des frontières de la ville et de changer le regard que les Françaises et les Français portaient sur leur activité. Oui, on a découvert l'opinion publique. Les prostituées sont comme tout le monde pour cette opinion publique. Elles peuvent avoir des émotions, des enfants, des revendications. Le 27 juin 1975, moins d'un mois après le début du mouvement, un jugement de la Cour de Lyon exempte de prison les prévenus qui étaient à l'origine de la mobilisation. Une autre victoire, judiciaire cette fois, mais qui ne suffira pas à pérenniser le mouvement, faute d'intérêt des dirigeants politiques. En décembre de cette fameuse année 75, le rapport Pinault, pourtant réclamé par Valéry Giscard d'Estaing, est enterré, oui, avant d'avoir été examiné en Conseil des ministres. Quant aux états généraux de la prostitution, bien qu'ils renforcent la conscience collective de celles qui y participent, ils ne mèneront pas à l'organisation espérée. Hula et Barbara, les porte-paroles médiatiques, quittent bientôt la prostitution, tandis que les féministes se tournent vers d'autres causes. Et peu à peu, les prostituées, leurs revendications tombent de nouveau dans l'oubli. Un succès en demi-teinte, donc, pour ce combat inédit, qui marquera malgré tout l'histoire des luttes sociales. Aujourd'hui encore, et dans le monde entier, le 2 juin reste la journée internationale des luttes des travailleuses et travailleurs du sexe.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le mouvement des prostituées à Lyon en 1975, dont nous parlons avec notre invité Lilian Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Centre Max Weber et à l'ENS de Lyon. Vous êtes spécialiste de l'étude de la prostitution et des mouvements sociaux. Vous avez entendu Georges Brassens, hein ? Bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Tout est dit ou presque. C'est ça les génies. Qui sont les personnes qui se prostituent à l'époque ? Quel est leur profil ? Est-il vraiment différent de celui des autres époques ? Ne parlons-t-on pas du plus vieux métier du monde ?
Alors, si on veut comparer avec la situation française, ce qui marque la principale différence, c'est que la plupart des femmes prostituées qui vont se retrouver dans l'église Saint-Nizier ou dans d'autres églises sont françaises. Mmh. Ce que on peut repérer dans leur parcours, parce que un bon nombre d'entre elles vont par la suite raconter leur histoire, porter leur témoignage, c'est que ce sont souvent des filles mères, pour reprendre une catégorie de l'époque, c'est-à-dire des jeunes femmes qui ont eu des enfants sans être mariées et qui ont, puisque c'est considéré comme une faute dans les mœurs de l'époque, été ostracisées, stigmatisées violemment pour cela, qui ont perdu leur emploi, qui ont été éventuellement placées dans des foyers du Bon Pasteur, qui étaient des institutions religieuses de type semi-carcéral, extrêmement, extrêmement brutales et où leur travail était exploité, qui ont été rechassées de leur famille. Et voilà, ça c'est aussi un élément peut-être significatif de différence par rapport à l'époque contemporaine où voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales, les mères célibataires ne suscitent plus, et c'est heureux, la même opprobre sociale.
Alors, par rapport à aujourd'hui, maintenant, donc le profil a changé, le profil des prostituées, de la prostitution aujourd'hui.
Absolument. Alors, autre élément qui intervient de différence, c'est que il y a une prostitution masculine et notamment travestie qui coexiste à la prostitution féminine dans les années 70, mais sans véritablement lien entre elles. Alors, il y a des travestis qui vont essayer de se joindre au mouvement après l'occupation des églises, mais les prostituées femmes vont être plutôt embarrassées et vont refuser cette coalition, parce que ça leur ferait perdre aussi un des arguments de légitimation de leur lutte, qui est d'être des mères. Mmh. Hein, vous l'avez dit, les premiers tracts commencent par « ce sont des mères qui vous parlent ». Et évidemment, la figure du travesti dans un contexte, là aussi, il faut replacer, où l'homophobie est omniprésente, la figure du travesti, du prostitué masculin ne s'ajuste pas au paysage, quoi, à la façade que le mouvement essaye de se construire.
Alors, cela dit, pourquoi à l'époque les prostituées ne revendiquent-elles pas un statut professionnel ? Autrement dit, qu'on reconnaisse leur activité comme un métier. Ça semblait pas être une priorité pour elles.
Alors, la priorité, c'est échapper à la prison et ne plus être exposé à une répression policière extrêmement brutale, constante. Donc, c'est ça l'urgence. Hein. Lorsque les prostituées de Lyon se mobilisent à partir du début de l'année 75, c'est pour ne plus être exposé à ce harcèlement, à cette répression. Par contre, et ça aussi votre documentaire le souligne, de manière sous-jacente, il y a une situation paradoxale de femmes qui sont soumises à des impôts, qui sont soumises à des amendes, auxquelles l'État demande beaucoup d'argent, sur lesquelles l'État prélève de l'argent, mais sans rien donner en retour, et notamment sans protection sociale.
Surtout sur aucune base, puisque les échanges se font en argent liquide, en plus. Il n'y a pas de déclaration qui soit vérifiable.
Oui, mais alors ça, je dirais, c'est dans nos sociétés, l'impôt, personne n'est susceptible d'échapper à l'impôt à partir du moment où on dépasse le minimum imposable, et c'est aux prostituées de faire une déclaration de revenus. Ouais. Si elle ne relevait pas d'une économie informelle, très largement. Donc, c'est pas en soi le fait d'être soumis à l'impôt, si on gagne suffisamment d'argent pour dépasser le minimum imposable, n'est pas en soi scandaleux. Par contre, mais le problème, c'est que la protection sociale en France ne dépend pas de l'État, mais elle n'est pas financée par l'impôt, mais par les cotisations sociales. Si votre activité n'est pas reconnue, vous n'avez nulle part aucune caisse de prévoyance, d'assurance maladie, de caisse retraite, auquel verser des cotisations. Et une nouvelle fois, lorsqu'on exerce une activité informelle, la question ne se pose pas. Alors, en tout cas, elle ne se pose pas dans ces termes-là pour les personnes qui exercent cette activité.
Je remarque que dans les années 70, on accepte la pornographie, les villes sont remplies de cinéma porno, mais pas la prostitution. Pourquoi ?
Alors, on accepte la pornographie depuis très peu de temps, c'est-à-dire que c'est en 75 qu'a été instaurée une loi qui rend légale la diffusion dans des salles spécifiques de films pornographiques, qu'on va classer X. Donc c'est quelque chose d'assez récent, et puis c'est une économie qu'il s'agit là aussi d'assainir, entre guillemets, de contrôler, de prélever des taxes. Hein, le cinéma pornographique est beaucoup plus taxé que le cinéma, entre guillemets, normal. La prostitution, elle fait partie du paysage urbain. Il y a beaucoup plus de tolérance à sa visibilité qu'aujourd'hui. Ça, c'est aussi une des grandes différences par rapport à la période contemporaine. Pour autant, il y a une réputation d'illégalité dans ce que dit Michel Poniatowski dans votre documentaire. On voit bien comment il associe immédiatement cette activité à la criminalité.
Absolument.
Donc c'est ce qui contribue à la rendre, on va dire, illégitime. Par contre, elle est beaucoup plus intégrée, on va dire, à la vie sociale, au paysage urbain et, je dirais, à la sexualité masculine.
Lyon Mathieu, on va faire un saut dans le temps et arriver en 2016, parce qu'en 2016, il s'est passé quelque chose d'important. L'Assemblée nationale a voté une loi qui pénalise les clients de la prostitution. Je veux dire, les clients. Écoutez ce qu'en pense Marie Bonnet de l'association Nantes Paloma, qui soutient les prostituées. Elle est interrogée par Franck Cognard.
Alors, l'objectif à la base du législateur était de se dire, l'idée c'est d'abolir la prostitution. Donc, si on veut abolir la prostitution, on va pénaliser les clients. Et donc, il n'y aura plus de clients, donc il n'y aura plus de personnes qui proposent des services sexuels tarifés. Dans les faits, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. On a surtout vu à Paloma, avec notre expérience de terrain, une inversion du rapport de force, en fait. Il y a vraiment cet argument de la part des clients de négocier des tarifs, de négocier des pratiques, parce qu'ils prennent le risque de se faire contrôler par la police. Je précise quand même qu'on fait une différence entre des clients qui respecteraient le contrat et qui ne chercheraient pas à négocier quoi que ce soit. Des agresseurs qui, eux, vont négocier les tarifs, vont demander à récupérer l'argent après la passe, vont demander à avoir un rapport sexuel sans préservatif pour quelques euros de plus.
Vous avez employé tout à l'heure le verbe abolir pour dire il y a ceux qui souhaitent abolir la prostitution. Il y a tout un vocabulaire dans ce milieu, abolition, prohibition, réglementation. Quelles sont les grandes différences si on doit être pédagogique?
Alors si on veut essayer d'être pédagogique, on est sur un modèle abolitionniste en France. L'idée de ce modèle abolitionniste, c'est effectivement d'abolir la prostitution parce qu'on part du principe que c'est un mal en soi et qu'il faudrait abolir la prostitution et donc pénaliser les clients et les tierces personnes, mais pas les travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu'on part du principe que ce sont des victimes. Ça se différencie avec le prohibitionnisme, qui pour le coup part du principe qu'effectivement la prostitution est un mal aussi en soi, un fléau moral, et que donc on pénalise absolument toutes les parties. Dans le cas du prohibitionnisme, les travailleurs et travailleuses du sexe ne sont pas considérés comme victimes, mais plutôt comme étant les personnes qui sont à l'initiative de ce mal. Donc là, toutes les parties, je dirais, sont pénalisées d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un modèle qu'on peut retrouver, par exemple, en Russie ou dans beaucoup de pays aux États-Unis. Et après, on a plutôt le modèle réglementariste qui, lui, organise la prostitution. Le but, c'est de contenir un peu les nuisances associées au phénomène et le danger que ça peut représenter pour l'ensemble de la société. Et du coup, il y a un peu cette idée d'encadrer, de réglementer, mais aussi d'avoir un espèce de contrôle hygiéniste pour empêcher la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, à Paloma, on se retrouve dans aucun des trois modèles que je viens de citer. Nous, on se retrouve plus sur le modèle de la décriminalisation, qui viserait plus l'annulation des lois qui sont aujourd'hui faites à l'encontre des personnes et qui ont vraiment des conséquences négatives pour leur santé et leur sécurité.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Lilian Mathieu, notamment sur le dernier point abordé? Lilian Mathieu, oui.
Oui, je suis toujours là. Je prends un peu le temps de réfléchir à votre question. Je dirais que cette distinction entre les régimes abolitionnistes, prohibitionnistes, réglementaristes n'a pas forcément beaucoup de sens aujourd'hui. Historiquement, c'est un legs, mais on voit, lorsqu'on compare les politiques qui sont adoptées dans les différents pays à l'échelle notamment européenne, que les enjeux sont souvent les mêmes, et de faire disparaître une activité dont la visibilité dans l'espace urbain est dérangeante, et de contrôler des flux migratoires à une époque où la prostitution est en grande partie exercée par des personnes migrantes. L'autre aspect, c'est effectivement le paradoxe ou la difficulté de confier une politique qui se veut, qui se prétend en tout cas féministe et de secours à des victimes, aux forces de police. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu l'épisode de 1975, c'est-à-dire que l'institution policière n'est pas forcément celle qui est dans les meilleures dispositions à l'égard des populations marquées par une certaine marginalité et qu'il faudrait éventuellement plus secourir que réprimer. Hein. Et l'application de la loi, que ça soit la loi sur le racolage, instaurée en 2003 par Nicolas Sarkozy, où la loi de pénalisation des clients donne quand même la priorité à chaque fois à la pénalisation, et avec les mêmes conséquences de dispersion et d'invisibilisation et de clandestinité accrue de l'activité prostitutionnelle, ce qui rend le secours aux personnes prostituées ou l'assistance ou la protection plus difficile.
Lilian Mathieu, on va continuer notre conversation après Stromae qui chante, alors c'est de circonstance, ou presque, Fils de joie.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que
j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux.
France Inter. Affaires sensibles.
Aujourd'hui, le combat des prostituées à Lyon en 75 et ailleurs. D'ailleurs, on a parlé des militants du MLF qui soutenaient les prostituées en 1975. En 2023, quelle est la position des mouvements féministes par rapport à la prostitution, sachant que s'il faut aider ces femmes-là, qui sont des femmes, qui sont des mères, leur métier est quand même adossé à un rapport de domination de l'homme sur la femme.
Alors, La prostitution, c'est, je dirais, autant que le voile, un thème clivant à l'intérieur du mouvement féministe, en tout cas en France, avec toute une partie, je dirais, majoritaire du féminisme français qui est rallié à l'idée au projet d'abolition de la prostitution, qui serait intrinsèquement un rapport d'exploitation, de violence sexuelle et sexiste, du patriarcat à l'encontre du corps des femmes. Et une fraction de ce même mouvement féministe qui, avec des fractions sans doute un peu plus jeunes, plus influencées par les théories queer, par exemple, ce qu'on appelle le féminisme pro-sexe, qui prend jusqu'aux dernières extrémités l'idée de libre disposition de son corps, c'est-à-dire d'en faire également un usage commercial. Donc, de la même manière que sur le voile, même si les oppositions ne se recoupent pas totalement, c'est un thème extrêmement clivant à l'intérieur du féminisme.
Est-ce qu'il se dégage une majorité, d'un côté ou de l'autre ?
Je dirais que la majorité, la plus grande partie, c'est difficile à quantifier évidemment, mais le féminisme le plus institutionnel, on va dire, est très clairement abolitionniste.
On entend souvent l'expression « travailleur et travailleuse du sexe ». Qu'est-ce que ça signifie par rapport au mot « prostituée » ? Est-ce que nous sommes dans le politiquement correct ou au contraire, dans une façon de parler plus juste ?
Alors, c'est une catégorie militante à la base, « travail du sexe ». C'est une manière de repousser, de mettre à l'écart la dimension stigmatisante et victimisante du terme « prostituée », qui est un participe passé, « prostituée ». Donc ça induit une idée de passivité. Travail du sexe, c'est une manière de mettre en avant que c'est une activité qui permet aux personnes qui l'exercent de gagner leur vie. Ça veut pas dire qu'elles adorent cette activité, que ça veut pas dire qu'elles l'ont choisie, mais en tout cas, c'est ce qui leur permet de gagner leur vie. Et étant un travail, il devrait être, du point de vue de ceux qui portent cette idée, ce projet, être reconnu comme un métier comme un autre et permettre d'accéder à la protection sociale qui revient aux activités, aux métiers considérés comme légitimes dans notre société.
Donc merci,
c'est
infiniment.
Un objectif de normalisation.
Merci infiniment, Lian Mathieu. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de l'étude de la prostitution et des mouvements sociaux. Merci pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mouvement des prostituées en 1975. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.